La couverture santé, chapitre 4.
Ne pas confondre drap sans café et couverture santé.
Très bon, très bon. C'est logique que l'on fasse l'association Sécu Assurance Maladie, parce que cette dernière est la branche avec laquelle eh bien, on a le plus de contacts, et puis qui d'ailleurs représente presque la moitié des dépenses du régime général.
Eh bien, parlons-en de ces dépenses, tiens. Si je vais chez l'ophtalmo, ça va me coûter un œil, non? Ou si j'ai mal aux dents, par exemple. En plus, il risque de me donner des traitements, et malheureusement, les médocs, ça coûte cher.
Ouais, tu parles du prix des médicaments. Il n'y a pas de meilleure façon d'aborder les questions politiques relatives à la santé, je trouve. En France, le prix du médicament est fixé par le Comité économique des produits de santé, le CEPS. Pas de manière arbitraire, non. C'est en général après négociation avec l'entreprise exploitant le médicament. La négociation se fait officiellement sur la base de l'amélioration du service médical rendu, du prix des médicaments du même type, qui ont la même visite thérapeutique, mais aussi des volumes de vente envisagés, de la population cible, maladie de riche, maladie de pauvre, solvabilité des patients, etc., et des prix pratiqués à l'étranger. Dit autrement, on prend en compte l'efficacité du traitement, la demande et l'état du marché pour ne pas être moins ou plus cher que les concurrents. Tu veux un élément choquant?
Vas-y, vas-y, je suis assis.
Eh bien, beaucoup d'industriels justifient le coût de leurs produits par celui de la R&D, de recherche et développement, et par les coûts de production. Or, on constate que ces notions n'entrent en compte pratiquement pas dans la négociation, et pour cause. Une fable de La Fontaine explique comment le singe fait retirer les marrons du feu avec la patte du chat. Ici, les industriels retirent les marrons rôtis avec la patte du service public. Les recherches permettant d'aboutir à de nouveaux traitements sont la plupart du temps réalisées par le secteur public. Celui-ci forme des gens compétents, et une fois que ceux-ci sont en mesure de breveter le résultat de leurs recherches, partent dans le privé, vendre les fruits de l'arbre que le public a planté, nourri, arrosé, taillé et regardé grandir. Et comble du tout, universités et organismes de recherche poussent les chercheurs à « oser l'entreprise ». Dans les masters de management, dans des services universitaires comme j'en ai eu une dans Grenoble, dans l'université de Grenoble, et qui n'hésite pas à inviter le grand patronat français sur les campus chanter le modèle capitaliste. En fait, c'est un hold-up en bonne et due forme du secteur public. On finance vos recherches avec des fonds publics, et dès que vous trouvez quelque chose, n'oubliez pas de monter votre start-up pour privatiser les retombées de votre recherche. Les start-up en question seront souvent rachetées ensuite par des poissons plus gros, qui tireront bénéfice de tout ça sans scrupule, sans avoir mis les mains dans le cambouis, et puis participer économiquement. Et s'ils jugent que le profit n'est pas suffisamment juteux, ils imagineront une nouvelle méthode pour le calcul des prix du produit.
J'avais bien fait de m'asseoir.
Ouais, c'est ce qui s'est passé dans le cas du Sovaldi, un traitement efficace contre l'hépatite C, une maladie du foie causée par un virus. L'hépatite C touche environ 130 millions de personnes dans le monde, et ses conséquences sont suffisamment graves pour que des programmes de recherche publique soient engagés, en particulier aux USA, au Japon, en Allemagne ou encore en France, par l'intermédiaire de l'ANRS, l'Agence France Recherche Nord et Sud, SIDA, HIV, hépatite, c'était ça le nom complet. Et en s'inspirant de ces recherches, la start-up états-unienne Pharmacet, fondée par deux chercheurs de l'université d'Emory aux États-Unis, développe en 2007 une molécule prometteuse dans le traitement de l'hépatite C, le sovosbuvir. Sans préjuger de leurs intentions, ces braves gens domicilient la société à la Barbade, un paradis fiscal, avant de la rapatrier dans le Delaware, un autre paradis fiscal, sans que personne ne retrouve trace exactement des montants investis ni leur provenance. En tout cas, il semble que le développement de cette molécule est compté aux alentours de 55 millions d'euros. Pourtant, en 2011, cette start-up est rachetée pour plus de 10 milliards d'euros par le laboratoire Gilead. Exorbitant, me diras-tu, mais... Sauf que dès 2013, la firme commercialise la molécule aux USA sous le nom de Sovaldi, au tarif d'environ 78 000 euros par patient pour un traitement complet. L'investissement s'avère extrêmement rentable. Les coûts de production ne sont pourtant pas très élevés, et certains laboratoires sont en mesure de proposer des génériques du traitement pour 2 000 à 3 000 euros maximum, comme le laboratoire Becker en Algérie.
Je trouve ça scandaleux.
Ben ouais, alors n'écoute pas la suite, parce que ni la recherche, ni les frais d'acquisition ou de développement ne justifient le prix exorbitant fixé. Et une enquête menée par le Congrès états-unien révèle que Gilead a tout simplement fixé son prix en faisant une étude du montant socialement acceptable pour son médicament auprès des patients, médecins et assureurs. Alors, je t'explique. Le prix est fixé en fonction de ce que les gens sont prêts à payer pour se soigner ou survivre. Et ça, c'est une sordide révolution. C'est exactement 84 000 dollars aux USA et entre 40 000 et 50 000 euros en Europe.
Et pourquoi cet écart?
Parce que les Yankees sont prêts à payer plus cher que nous, c'est tout. C'est tellement onéreux qu'en France, ça conduit l'assurance. Ce genre de produit, là, c'est tellement coûteux que l'assurance maladie en est venue à sélectionner pour des raisons économiques les patients qui bénéficient ou non d'un tel traitement. Tu vois. Le gouvernement a dû demander de rationner les prescriptions et traiter seulement les personnes ayant une fibrose du foie avancée, la fibrose étant un marqueur du stade avancé de l'hépatite. Depuis cet hélas trop petit scandale, qui est pourtant juste honteux, les politiciens, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine en tête, se sont emparés du sujet et les tarifs ont été renégociés avec Gilead. On ne paiera désormais plus que 28 700 euros maximum par patient.
Quand même.
Bah, ça permet de soigner plus de monde, mais pour cette fois seulement, car il n'y a pas de raison que ce genre d'histoire ne se répète pas. Tu vois.
C'est quand même effarant ton histoire. Mmh. Moi, mes traitements sont vachement plus simples, mais j'ai quand même peur que ça me mette sur la paille.
Bah, tu t'inquiètes de tes dépenses, et puis tu n'as pas beaucoup de blé, je comprends, hein, mais t'es pas le seul. D'ailleurs, la dernière enquête disponible date de 2015 indique que plus d'un quart des étudiants interrogés rapportent avoir renoncé à consulter un médecin dans l'année qui précède, dont la moitié pour raison financière. Certes, ce n'est pas spécifique aux étudiants, on retrouve presque les mêmes proportions à la population générale. Si tu veux mon avis, c'est pas tellement à cause du coût réel que les gens ne consultent pas, mais à cause du coût présumé, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça leur coûterait. Moi, c'était mon cas hein, quand j'étais étudiant. J'avais peur que ça me coûte cher, alors j'y allais pas. Quoi. Entre les différentes spécialités, les secteurs, les dépassements d'honoraires, les médocs plus ou moins remboursés, bon, eh ben, ils ont peur de passer pour des ignares, alors ils renoncent. Et c'est vrai que c'est si compliqué que c'est à se demander si c'est pas fait exprès.
Allez, vas-y, explique, je m'accroche.
Bah alors imaginons une métaphore. C'est une métaphore que Nicolas Pinceau a. C'est lui qui m'a mise en tête. Un monde où on soigne les gens malades avec des pizzas. Imagine ça. Aller consulter un professionnel ou te rendre à la pharmacie et qui voudrait te faire livrer une pizza. Donc le soin que tu reçois, le conseil que l'on te prodigue ou la pilule que l'on te délivre sont des produits ou des services que tu achètes, comme si tu payais la livraison d'une pizza trois fromages. Comme on collectivise les dépenses, nous sommes plusieurs à payer pour ton repas. En tout, tu as trois éléments à payer, la pâte, la garniture et la livraison.
Okay.
Toi, tu dois payer la livraison. C'est toujours le même prix. C'est 1 euro pour chaque consultation médicale, radio ou analyse biologique. On appelle ça la participation forfaitaire, instituée au 1er janvier 2005 sous Raffarin. Et c'est 50 centimes pour chaque acte paramédical et chaque boîte de médoc. Ça s'appelle la franchise médicale. Elle a été instituée sous le gouvernement Fillon en 2008. Cette franchise est plafonnée à 50 euros par an. Si tu dois aller 51 fois chez le Toubib ou acheter 101 boîtes de médoc, tu ne dépasseras pas les 50 euros sur l'année, quoi.
En fait, une sorte de carte de fidélité où, au-delà d'un certain nombre de commandes, on viendrait me livrer gratuitement.
Ouais, si tu veux, mais bon, à la différence qu'ici, on ne fait pas ça pour te fidéliser à un magasin. Ensuite, la branche maladie de ton régime de sécurité sociale s'acquittera automatiquement du paiement de la pâte de la pizza. Il ne reste donc que la garniture à payer. C'est ce qu'on appelle la cote-part personnelle ou cote-part d'intervention personnelle. Mais le terme le plus utilisé est un petit peu ésotérique, on l'appelle le ticket modérateur. Ce terme apparaît dans la loi de 1928 et s'inspire du ticket de visite en vigueur avant 1928 dans le modèle allemand, où le médecin devait recevoir un ticket des mains du malade lui-même pour aller se faire régler le montant de ses honoraires par la caisse en vigueur à l'époque.
J'ai compris. Donc la garniture, en fait, c'est moi qui la paie.
Ouais, mais n'oublie pas que la pâte aussi, tu la paies, puisqu'elle est payée par nos cotisations communes. C'est le piège classique. On se fait tout savoir au début, on croit que c'est gratuit, mais l'argent public, c'est nos sous. Ouais. La garniture, normalement, c'est à toi seul de la payer, oui. On dit que le ticket modérateur, il est de ta poche. Mais si tu veux pas, tu peux souscrire à l'une des nombreuses complémentaires santé, ouais. Je mets entre guillemets complémentaires santé, qu'on appelle aussi à tort, tu vas voir pourquoi, des mutuelles. Tu peux faire un contrat avec l'une d'elles pour qu'elle te paye ta garniture, quoi, le ticket modérateur. Le principe est simple, tu payes une cotisation à l'année fixée dans ton contrat et en échange, la complémentaire santé te paie autant de garniture qui sera nécessaire.
De fait, c'est pareil que la Sécu.
Mais non, justement, rien à voir. La Sécu a été créée pour garantir un accès aux soins pour tous.
Okay.
S'il y a beaucoup de pauvres, alors la Sécu, elle sera en déficit, ce qui est un faux problème, puisqu'elle n'est pas censée faire des bénéfices. Tu relèveras peut-être que tous les gens, essentiellement les mêmes, qui parlent de charges salariales, qui contestent la Sécu, parlent de trous, de gouffres, pour bien marquer les esprits, pour bien faire peser sur les pauvres qui se soignent un déficit budgétaire de la Sécu et plus largement de l'État. Julien Duval a très bien montré ça dans son bouquin « Le mythe du trou de la Sécu ».
Mais attends, c'est pas un mythe, t'as vu les chiffres ?
Non mais bien sûr qu'elle est déficitaire, elle a souvent été déficitaire, mais primo, parce qu'on veut bien qu'elle le soit, et surtout secondo, parce qu'elle n'est pas faite pour être équilibrée. Si tu regardes de près, il faut distinguer les dépenses et les recettes. Ce qu'on appelle le trou, bah, c'est la différence entre les deux.
Okay.
Alors petit retournement, au lieu de considérer que ce sont les dépenses excessives qui créent cette différence, pourquoi ne pas regarder ce qu'il manque comme recette pour combler le déficit ? Entre le travail dissimulé, les détachements de travailleurs étrangers, les heures non déclarées et l'évasion fiscale, la Cour des comptes estime que les fraudes aux cotisations sociales par les grands patrons sont de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros, alors que le dernier déficit annuel connu du régime général de la Sécu en 2016, c'est à l'époque où on écrivait le livre, n'est que de 3,4 milliards. Dit autrement, il n'y a pas vraiment trop de dépenses par les pauvres, il y a trop de riches qui ne payent pas leur part. Et à l'heure où nous discutons, nous n'avons pas pris encore bonne mesure de l'affaire des Panama Papers, par exemple, et d'autres scandales qu'il y a eu depuis.
Les Panama Papers, on dirait un film de James Bond.
Ouais, ça ne parle pas. Bah, le scénario, il n'est pas piqué des hannetons. Cette affaire désigne plus de 11 millions de documents confidentiels issus d'un cabinet d'avocats panaméen qui ont été transmis par un lanceur d'alerte au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, lequel a rapidement partagé les informations avec l'international consortium de journalistes d'investigation, l'ICIJ, qui regroupe près de 200 journalistes à peu près partout sur la planète. Dans ces documents, plus de 200 000 sociétés offshore, comprendre ici une société la plupart du temps montée pour faire de l'évasion fiscale, sont répertoriées avec le nom de leurs actionnaires, généralement hommes et femmes d'affaires affluents, politiques, milliardaires, célébrités, et parmi eux, quelques illustres Français. On peut donner des noms, Platini, Cahuzac, Balkany, Jean-Marie Le Pen, Glénat, Grenoble.
Qui, eux, si j'ai bien compris, ne paient pas ce qu'ils devraient payer au pot.
C'est ça. En plus, s'ils payaient ça, il n'y aurait pas de trou. Bon. Et je ne te parle même pas des délocalisations à l'étranger par les boîtes, les chômages et les éventuelles dépressions nerveuses des anciens employés étant alors, et oui, à la charge du public. Ou des niches fiscales concoctées par les gouvernements pour s'assurer que la pression fiscale n'est pas trop grande pour ceux qui gagnent beaucoup, les pauvres.
Tu plaisantes.
Ben non, à mon grand regret, non. Hein. Le montant global d'argent qui est tombé dans les niches fiscales était, tiens-toi bien ton slip, de 83 milliards d'euros en 2016. Presque 83,5. Chiffre officiel. Donc si on veut militer pour la dépénalisation du cannabis, pour enflouer les caisses, on pourrait faire ça. Mais tant qu'il y a plus de pauvres que de riches et que les riches ne payent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient, on n'est pas prêt de remblayer le trou. La meilleure façon serait de crier au-delà, Lee, comme Robin des Bois, frère, tu qui es petit Jean dans la forêt de Sherwood, et faire cracher au bassinet les puissants.
Richard, tu peux me dire deux mots sur justement ces niches fiscales? Moi, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est.
C'est une dérogation fiscale qui permet, à certaines conditions, de payer moins d'impôts ou d'éviter l'impôt. Certaines dérogations peuvent se défendre, comme l'aide fiscale qui consiste à retrancher de tes impôts l'argent que tu as dépensé pour faire garder ton môme pendant que tu travailles, par exemple.
Quoique, tu pourrais faire en sorte que cette personne soit payée par de l'argent public provenant de l'impôt que j'aurais dû payer.
T'as pigé le système. C'est la même chose avec les épargnes-retraites dont on a parlé au chapitre 1. Si tu épargnes pour ta retraite, en plus de ce qui est obligatoire, on ne te prélève pas d'argent pour le pot commun. Mais bon, inutile de te leurrer. La majorité des niches fiscales ne sont pas faites pour aider le contribuable lambda à garder ses mômes, mais sont taillées sur mesure pour les plus aisés qui cherchent à s'extraire de la participation au pot commun. Si t'as bien en tête que l'impôt, c'est ce que chacun amène au repas partagé, tu vois, ça revient à accueillir des pique-assiettes à la table, si tu veux. Qui viennent les mains vides ou avec un vieux cake aux olives rassis et mangent comme quatre les mets des autres alors qu'ils ont chez eux les placards pleins de victuailles qu'ils n'ont pas voulu partager. En France métropolitaine, il y avait 453 niches fiscales en 2015. Le gouvernement a annoncé une lutte contre les niches fiscales, elles sont passées à 449 en 2016 et elles sont remontées à 451 en 2017. J'ai pas regardé depuis. Il faut dire que le malheur à qui s'y attaque. Un proverbe circule qui dit « Dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui y mord. Ouais, » bon. C'est pas très drôle, j'avoue.
Mais n'empêche, ça enlève combien, ça, au repas collectif?
La bagatelle de, allez, à peu près 90 milliards d'euros pour 2017.
Attends, c'est supérieur ou inférieur au déficit de la Sécu?
C'est 26,44 fois plus.
En 2016? Mais c'est inouï. Mais ça ressemble à quoi, une niche fiscale?
Tu possèdes une maison ou un château classé monument historique, toi?
Non. Tu parles. J'ai un vélo classé monument historique, à la rigueur, mais c'est tout.
Bon, ça marche pas avec ton vélo, mais l'argent que tu passes dans les travaux de ton château, tu peux, dans une certaine mesure, le retirer de tes impôts. Idem, il y a un abattement spécial sur les plus-values lors de la cession d'un cheval de course. Tu vois, un cheval de course, pouf. C'est ça, tu peux te marrer. N'empêche, ça pompe 2 millions d'euros par an à l'État, ces conneries. Comme je te le disais, les niches fiscales sont pas forcément immorales. Tu peux faire des dons défiscalisés à des associations ou des syndicats, je le fais moi. Ou à une Sofica, par exemple, une société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, qui finance près de la moitié des films français. Il y a quelques conditions à respecter pour ces associations. Il faut être à but non lucratif, avoir un objet social et une gestion désintéressée, et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Tiens, je parie toi si t'as une niche fiscale.
Ça me ferait mal.
T'as un livret A?
Oui. C'est ma mère qui me l'a ouvert, il n'y a pas assez de chiffres.
Il n'y a pas assez de chiffres. C'est bien, ta mère est une bonne personne, car ce que tu mets sur ton livret A finance le logement social.
Eh bien, je le dirais.
C'est l'esprit d'origine de ce livret qui s'appelait Seria, et qui a été créé au même moment que la première caisse d'épargne en 1818. L'inventeur, Benjamin Delessert, un industriel lyonnais, souhaitait initier chaque citoyen, et non pas les seuls riches qui avaient déjà la haute banque, au bienfait de l'épargne, afin de l'émanciper de toute dépense matérielle. Eh bien, livret A, c'est une niche fiscale. Les intérêts qu'ils génèrent sont entièrement exonérés d'impôts. Cela représente un manque à gagner pour l'État d'environ 335 millions d'euros par an. Moi aussi, j'ai un livret.
Ouais, mais là, tu m'embouches un coin quand même. Et toi, tu en uses de niche fiscale?
Tu vois, je fais des dons. Par exemple, vu qu'on travaille avec des logiciels libres, je fais un don chaque année pour Framasoft. Je peux ensuite retirer de mes impôts 66% du montant. Là, tu as trois façons de voir les choses qui se produisent. Soit je me dis qu'en filant 34 euros Imagine, tu files 100 euros à Framasoft, on m'en rembourse 66%, donc 66, tu vois. Mais en filant 34 euros, j'ai contraint l'État à rallonger les 66 euros, donc je l'ai bien roulé, et c'est Framasoft qui engrange le truc. Mais là, j'ai tout faux, car en fait, ces 66 euros, ce sont des impôts en moins, donc du pique-nique collectif en moins. Donc, c'est mes sous et les tiens. Donc. Au final, c'est peut-être moi qui en subirai les conséquences, parce que le gymnase municipal ou la piscine, eh bien, ils seront obligés de réduire leurs horaires et que j'aurai l'air fin avec des gamins devant la porte fermée quand ils voudront aller à la pistoche, quoi. Peut-être que j'irai même jusqu'à dire salaud fonctionnaire, alors que d'une, ils ne sont pas fonctionnaires, ouais. Et deux, c'est moi qui ai réduit le pot commun. Tu vois. Ouais. Bon, soit je me dis que je me substitue à l'État et que je gère mon impôt comme je veux. Par exemple, moi, qui suis anti-militariste, je n'ai pas envie de voir mes impôts dépensés dans l'opération Barkhane, qui a duré si longtemps au Sahel, ou dans les chars en Afghanistan, ou dans les drones. Alors je dévie cet argent vers les causes comme celle de Framasoft.
Ça me rappelle David Henry Thoreau. Donc j'ai découvert la poésie dans le film Le Cercle, l'excellent film à l'époque quand j'étais ado, Le Cercle des Poètes disparus, 89 de Peter Weir. Il me semble qu'il avait été arrêté pour le même genre de choses, non?
Oui, alors Thoreau, il a effectivement été arrêté en 1846 pour avoir refusé de payer 6 ans d'arriérés d'impôts locaux à un agent de recouvrement. Bon, le motif, pas question de payer ses impôts à un État qui admettait l'esclavage et faisait la guerre au Mexique. Mais c'était sans compter sur une de ses tantes qui, contre son gré, paya sa place. Alors, il fut libéré dès le lendemain. Bon, et enfin, troisième façon de voir ma défiscalisation, là. Je me rends compte que si tout le monde fait pareil, alors la gestion de l'impôt devient privée. Et si je suis content de donner 100 balles à une structure défendant le logiciel libre, alors le millionnaire du coin peut faire pareil, lui, et orienter son blé, en plus grosse quantité que le mien, vers des structures qui vont dans un sens opposé au mien.
Je comprends. Mais comment tu tranches la question?
À mon avis, la solution, elle est triple. Il faut en priorité se battre pour redonner à l'impôt sa symbolique de repas partagé et collectif et redonner à tout le monde la fierté d'y contribuer. Ensuite, se battre pour que l'État ait une gestion aussi transparente qu'un ruisseau de haute montagne et une gestion consultative aussi de nos impôts. Et enfin, tant qu'elle n'est ni cristalline ni consultative, continuer à orienter ses dons.
Tu vois, je suis archi d'accord avec les deux premières solutions. En revanche, la solution des dons, je trouve qu'il y a quelque chose qui pue.
Ah ouais, c'est vrai. Elle contraint l'État financièrement en le privant de certaines ressources que j'ai affectées à sa place, au final. Par conséquent, quand bien même un maximum de gens auraient donné à des associations pour gérer la culture ou l'éducation, il reste quoi à l'État? Payer les flics et faire la guerre? Ce qu'on appelle la main droite de l'État, en gros armée, police, justice, prison, ce sont des budgets difficilement compressibles, donc l'État n'y touchera pas. C'est donc sur le reste qu'on rogne en guettant la niche fiscale. Tu sais, si on parle là-dedans, on y est encore demain matin. Car on pourrait aussi me rétorquer que mon raisonnement ne tient debout que si mes dons aux associations sont suffisamment diversifiés pour couvrir tous les domaines de la vie, si leur gestion est elle-même transparente et consultative, si sacré chantier, tu vois. Et on pourrait même se demander pourquoi la main droite est incompressible, pourquoi le budget de l'armée ou de la justice n'est pas soumise au vote, et on arriverait fatalement à la question de savoir s'il faut défendre un État, et si oui, combien de temps, et etc. Tu vois.
Bon, reprendra rendez-vous alors.
Ouais, un autre livre.
C'est vrai que je n'avais jamais vu les choses sous cet angle.
Est-ce qu'on ne les montre pas comme ça? Une prochaine fois que quelqu'un t'emmerde en te disant que tu te soignes trop, tu sais, la sempiternelle bobologie, en te déclamant des couplets du type « Ah bah bravo, tu soignes tes dents aux frais de la princesse », tu peux lui dire que primo, que la princesse, c'est toi, et puis c'est lui aussi d'ailleurs, puisque c'est le pot commun. Secondo, que si les riches payaient leurs impôts, tout le monde aurait des ratiches en bon état, et tertio, que tu coûtes bien moins cher à l'État que ses interventions militaires à lui dans des pays lointains. Rire et bonne ambiance garantie dans le repas de famille, si tu sors ça.
Mais c'est un faux dilemme que tu me fais là.
Bon, c'est vrai que cet argument est un petit peu facile, a priori. Encore que, regarde les chiffres. Budget de défense 2017, 32,7 milliards d'euros. Dernier déficit annuel connu du régime général de la Sécu, je t'ai dit, c'est 3,4 milliards d'euros, à peine 10%. Tiens, regarde ça, l'évolution du solde du régime général de sécurité sociale de 1998 à 2016. Là, il y a un petit dessin et tout. Ils annoncent que pour un déficit de 0,4 milliards pour 2017, ça serait aussi épatant que peu probable.
Résumons un peu, tu veux.
Le diagramme, il est comme ça. Bah avec la Sécu, tu cotises du fait de ton travail, même si tu n'es pas malade. Si pour guérir, tu dois consommer beaucoup de pizza dans l'année, t'es couvert en grande partie. Si tu n'es jamais malade, tu garantis un accès aux soins pour les autres. Et les autres, je te rappelle, c'est ton père, ta cousine, le facteur, un obscur inconnu de je ne sais où, qui est pourtant le pote d'un gars qui est copain avec la meilleure amie de ta belle doche. Avec une complémentaire santé, tu payes une cotisation fixée par l'organisme. Tu remarqueras que les complémentaires qui essayent de te tondre prennent bien soin, cette fois, de parler de cotisation et jamais de charge. Oui. Malin. Donc, tu payes ta cotisation. Et si tu dois consommer beaucoup de pizza dans l'année, tu manges sans repasser à la caisse. Tu as cotisé au club et bouffé plein de pizza parce que tu en avais besoin, une sorte de formule buffet à volonté, quoi. Si tu n'en consommes pas, c'est la complémentaire qui gagne du pèse. Mais comme toi et les autres clients aviez fait une mise de départ, vos fameuses cotisations, elle gagnera toujours plus qu'elle ne redistribuera car ces cotisations avaient été évaluées en fonction du risque. Et ces organismes sont des spécialistes du calcul du risque. En gros, c'est la même illusion qu'avec le casino. Tu crois que tu peux lui prendre des sous, et lui fait en sorte que tu le crois, et, mais à la fin, de toute façon, il gagne toujours. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, personne n'ouvrira plus de casino. La CQL, c'est pas du tout la même logique marchande. Ce n'est pas à but lucratif.
Donc, si je comprends bien, ma mutuelle n'en est peut-être pas une.
Bah, c'est possible, ouais. Puis c'est même, c'est même probable.
Mais c'est alors, enfin. Mais si j'y pense, pourquoi alors devrais-je prendre ma mutuelle? Pardon, une complémentaire santé.
Bonne rectification.
Bah, il suffirait dans ce cas-là que la Sécu passe à 100% de remboursement.
Mmh.
Certes. Je paierai un peu plus sur mon salaire chaque mois, mais je n'aurai qu'un interlocuteur.
Mmh.
Et surtout, un interlocuteur public.
Ouais, t'as tout compris. Mais les défenseurs acharnés de la Sécu, tu n'en trouves pas à tous les coins de rue. Tandis que les défenseurs de leurs industries privées, leurs intérêts privés, au détriment du bien commun, ça y en a. Et ils savent se battre et s'entourer de comptables et de spécialistes des niches fiscales. Si nous étions lucides, c'est vers 100% qu'il faudrait se diriger, mmh. comme dans le programme de départ, en fait. Durant la campagne présidentielle 2017, il y a guère eu que Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou pour défendre ça. Il faut presque nager à contre-courant. Et pourtant, on économiserait les frais de gestion et de publicité exorbitants qui bouffent le budget des complémentaires, vu qu'elles doivent claquer du temps, de la pub, de l'argent pour gagner des contrats. Appliquer les mêmes principes que ceux de la sécurité sociale permettrait, si j'en crois Martine Bullard du Monde Diplomatique, d'économiser 7 milliards d'euros. Les dossiers des malades ne seraient plus traités deux fois, par l'assurance maladie d'abord, puis par les complémentaires. Mmh. Ça allégerait aussi les charges administratives des hôpitaux, dont le personnel passe un temps infini à se repérer dans le maquis corse des 573 organismes complémentaires, mutuels, instituts de prévoyance, assurances, qui s'occupent des frais de santé.
Et si j'ai bien compris le début de notre discussion, c'est un retour vers les jours mmh. heureux. Chacun doit contribuer selon ses moyens mmh. et recevoir selon ses besoins.
Oui, et tu vois, moi qui pèse sans arrêt contre le régime du Concordat en Alsace-Moselle, c'est l'un des seuls trucs que je leur envie. Les soins, ils sont remboursés à 90% par le guichet unique de la Sécu, moyennant une cotisation salariale supplémentaire.
Attends, je t'arrête. J'ai une cousine qui bosse dans une assurance santé. Elle perdrait son boulot avec ton système, là.
Eh ben, peut-être pas. On pourrait faire en sorte que tous ceux qui le souhaitent soient intégrés dans la Sécu. Il ne devrait pas être sorcier de recaser progressivement la majorité des 41 000 salariés. Hein. Si tu regardes bien, tout, je dis bien tout, est fait pour que progressivement la population entière soit forcée d'adhérer à un système d'assurance complémentaire. C'est immanquablement présenté comme une avancée sociale, alors que c'est exactement l'inverse. On retourne vers le passé, on retourne vers la Sécu à l'états-unienne. Le dernier coup de Trafalgar mis en place, c'est la couverture complémentaire santé collective obligatoire qui doit être proposée par l'employeur du secteur privé à tous les salariés.
J'en ai entendu parler. Je trouvais que c'était une bonne idée, moi, surtout que l'employeur paie au moins la moitié.
Mmh, et ben moi, je trouve pas ça si joli. Premièrement, la couverture doit être négociée avec les partenaires sociaux, les syndicats donc, et le patronat. Si les négociations échouent ou s'il n'y a pas de partenaires sociaux, ce qui est le cas dans la majorité des petites entreprises, l'employeur installe une couverture santé dont il décide des décisions. Le risque, ben, qu'il choisisse la moins chère et que la couverture soit très dépendante de ton entreprise, de ton secteur d'activité, de tes employeurs. Si tu es dans une entreprise qui rogne sur les règles de sécurité, aucune assurance ne te voudra venir et donc tu auras double peine. Tu seras ni protégé, ni complètement couvert. Ça individualise à mort le processus. Et là, le piège se referme, c'est que pour refuser...
Il faut justifier, d'être assuré ailleurs,
ouais,
en fait.
Ouais. Et donc, tu es contraint, pieds et poings liés, de faire allégeance au libéralisme économique à un moment donné, pas le choix. Le processus de casse du bel idéal de la Sécu est engagé. Ton employeur, lui, devra payer au moins la moitié de la cotisation, c'est vrai. Il le fera souvent à contre-cœur, mais sois rassuré, ce montant est considéré comme un avantage en argent et doit être déclaré comme tel par le salarié, d'ailleurs. Une sorte d'augmentation non négociée qui ne dit pas son nom et qui menacera d'autant ta capacité à en obtenir une vraie. En gros, on va le forcer à te faire un cadeau empoisonné et ça va te rendre encore plus fragile dans le rapport de domination avec ta hiérarchie.
Alors, si on y réfléchit bien, il aurait suffi d'orienter l'argent demandé en plus aux employeurs vers la Sécu pour lui permettre d'améliorer ses taux de remboursement.
Mais pas seulement celui demandé aux employeurs. Toi aussi, tu vas passer à la caisse pour la moitié non prise en charge par l'employeur. On peut se demander pourquoi faire partir cette manne financière vers des complémentaires mutualistes ou privés plutôt que vers la Sécu dont tout le monde déplore le déficit. Et last but not least, dans les contrats des complémentaires santé, il y a à boire et à manger. Mmh. Certains sont proposés par des mutuelles de santé, des vraies mutuelles, donc à but non lucratif, d'autres par des mutuelles d'assurance, dont le vrai nom est Société d'assurance mutuelle, et qui sont régies non par le code des mutuelles, mais par celui des assurances, donc sur le modèle de l'entreprise lucrative. Alors oui, je sais, on ne devrait pas laisser abusivement utiliser le terme mutuelle, mais que veux-tu ?
Alors, il y a mutuelle, entre guillemets, et mutuelle, entre guillemets aussi ?
Bah, si tu as envie de faire avancer le schmilblick dans le sens de ce que voulaient les fondateurs Marcel Paul ou Croizat, il faut bien voir la différence entre mutuelle et mutuelle. Tout le monde appelle mutuelle sa complémentaire santé. C'est pourtant pratiquement jamais une mutuelle au sens propre du terme. On appelle ça des compagnies d'assurance par action. elles ont un objectif de bénéfice, ce qui fait une sacrée différence en matière de santé, tu t'en doutes, et les membres des structures de gouvernance sont élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui privilégie en général les stratégies qui rapportent aux actionnaires, pas aux assurés, évidemment.
Mais il y a bien des vraies mutuelles, non ?
Oui, il y a des mutuelles santé qui se distinguent des compagnies d'assurance par action, sur plusieurs points, qui vont t'émouvoir aux larmes. D'abord, le fonctionnement interne est égalitaire, il n'est pas lié à l'apport de capital, chaque adhérent possède une voix dans les délibérations, même s'il cotise peu. En gros, t'es fauché, t'as une voix quand même, au même titre que la milliardaire en perlousée juste à côté de toi. Ensuite, les membres des structures de gouvernance sont élus par les sociétaires eux-mêmes, donc par toi. Autre point, le but des mutuelles santé est non lucratif, c'est central, ça. Ça signifie que tout excédent est réparti au sein des mutuelles entre les membres ou mis en réserve et non envoyé engraisser des actionnaires. Enfin, les cotisations, elles sont indépendantes du risque individuel de l'adhérent. Contrairement à ce que font les banquiers ou les assureurs, elles ne te font pas raquer en fonction de ton état de santé. Ça change tout, ça. Il n'existe pas de sélection selon l'état de santé de l'adhérent et le questionnaire médical y est interdit.
Parce que c'est ce que font les assureurs santé ?
Évidemment, tu te rends pas compte parce que t'es jeune et pimpant, tout frais, rose et mignon, mais les contrats proposés par les compagnies d'assurance et de prévoyance privée à but lucratif n'ont rien à voir avec les principes mutualistes, mais rien. Ces contrats complémentaires sont proposés par les compagnies d'assurance et des institutions de prévoyance ou même carrément des établissements bancaires. Si, si, je t'assure, c'est le cas de le dire, je t'assure. C'est une blague avec l'assuré, tu vois, c'est marrant. Ok. Quand tu sais qu'un de mes camarades s'est vu refuser des services bancaires. Accroche-toi à cette phrase. Okay. Quand tu sais qu'un de mes camarades s'est vu refuser des services bancaires parce qu'il avait eu un petit kyste douteux, okay. Imagine les disparités de couverture si tu es en rémission de cancer, par exemple, ou le prix à payer pour être couvert après avoir fait un infarctus. Tiens, tu veux un exemple de disparité ? Une étude a été réalisée sur la base du montant des primes d'assurance santé proposées par les assureurs partenaires du site lecomparateurassurance.com. Presque 757 000 tarifs ont été analysés entre le 18 et le 22 août 2016.
Et
bah, il fait pas trop bon être dans Paris, sur la Côte d'Azur ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Et misère située dans les Hauts-de-Seine. Par exemple, un couple de grisonnants de 60 ans dépense en France environ 214 euros par mois d'assurance complémentaire santé. À Neuilly-sur-Seine, c'est 242,5, soit 13% de plus. Pardon. Une des raisons invoquées est celle-ci. Dans certaines zones, comme les grandes villes, les médecins et spécialistes pratiquent des dépassements d'honoraires. On en reparlera plus tard des dépassements d'honoraires plus importants qu'ailleurs, poussant les habitants à souscrire des garanties plus complètes et augmentant de fait le prix moyen des assurances santé dites mutuelles. T'as compris ? C'est toujours la même logique libérale, le même process, quoi. Soumettre toute parcelle de nos existences à la libre concurrence marchande. Ça marche pareil, que ce soit à petite échelle avec ces assurances ou à grande échelle avec les traités internationaux.
Traités ? Quel traité ?
Ah ben, l'accord de ce qu'on appelle l'ALENA, tu sais, l'accord de libre-échange nord-américain. Traité entré en vigueur en 1994, qui crée une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ouvrant à la concurrence tous les domaines, je dis bien tous, hein, dont les services publics dans ces pays. Dans les faits, ce traité a effectivement permis d'augmenter les volumes d'échange de biens, mais ce n'est pas sans incidence sur le plan politique. Le Mexique, par exemple, est devenu ultra-dépendant économiquement de son voisin du Nord, qui pour sa part a vu ses services et emplois se délocaliser au Sud en raison d'un coût de travail moins élevé. Le TAFTA aussi, le traité de libre-échange transatlantique dont tu as déjà entendu parler, c'est un accord commercial, lui, qui se négocie en toute opacité, sans contrôle, entre l'Union européenne et les États-Unis, prévoyant la création d'une zone transatlantique du même type que dans l'ALENA. En 2016, l'exécutif français a demandé un arrêt des négociations, c'était le 30 août, mais momentané afin de reprendre des discussions sur de bonnes bases, dit le secrétaire d'État Matthias Feckel. Et en mai 2017, malgré les fortes réticences de Donald Trump, l'administration états-unienne a relancé le process et souhaite une réouverture des négociations. Alors, je suis pas expert, moi, mais je vois juste que le processus est toujours le même. Démanteler les services publics rentables collectivement, mais sur lesquels les privés n'ont pas de prise, ont des milliers de petits acteurs qui n'ont cure de l'intérêt public et ne cherchent qu'à faire leur beurre. Regarde les autoroutes qu'on a déjà payées avec nos impôts et pour lesquelles on paye encore, c'est la mise à sac du service public.
Donc, il faut privilégier une complémentaire santé proposée par une mutuelle.
Oui, si c'est une vraie mutuelle santé. Car tu risques de retomber sur les mutuelles d'assurance ou sociétés d'assurance mutuelle dont je t'ai parlé, qui ne proposaient à l'origine que des contrats d'assurance automobile ou habitation et sont progressivement diversifiées dans la santé, mais aussi dans des vrais produits d'épargne ou de prévoyance, quoi. Et elles se distinguent des vraies mutuelles santé car elles appartiennent à leurs actionnaires et non à leurs membres. Elles cherchent leur profit pour leurs actionnaires et sont donc à but lucratif. Alors, et enfin, leur régime est réglementé par le code des assurances, quand les mutuelles santé, elles, sont régies par le code de la mutualité.
Mais ça change quoi ?
Regarde bien les différences entre les deux codes. Je souligne les points cruciaux. Article L111.1 alinéa 1 du code de la mutualité, je lis, les mutuelles sont des personnes morales à droit privé à but non lucratif. Elles mènent notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Non, tu prends le code des assurances. Article L322-26-1. Les sociétés d'assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable. Mmh. Alors, j'ai pas le temps de m'apesantir, mais le principe mutualiste réel est tellement bien que la mutualité française encourage ces dernières années à la création de mutuelles municipales. Et ça marche du tonnerre, en plus, quand les gens le font, ils sont contents, en plus.
Mais pourtant, les contrats proposés par les assureurs privés semblent moins chers et couvrir tout aussi bien mes dépenses.
Oui, mais c'est logique, c'est parce que je te l'ai déjà dit. T'es fringant, t'es super beau, t'es en pleine forme, t'es tout frais, t'es tout jeune. Le risque est quasi nul pour eux quand ils te prennent. Les assureurs entretiennent un flou sur leurs tarifs en fonction de leur taux de remboursement. Il faut militer pour que la loi les oblige à rendre transparentes ces informations. Comprends bien que les assurances cherchent leurs bénéfices d'abord, sans compter que le montant que tu dépenses pour assurer ton risque va certainement sur un compte en banque lui aussi, quand ce n'est pas la banque elle-même qui te propose l'assurance santé, ce qu'on appelle un banque-assureur, uniquement voué à son profit, et dont les avoirs sont probablement placés dans des paradis fiscaux qui permettent le blanchiment d'argent pour des trucs pas très propres, entre évasion fiscale et financements occultes de partis politiques. Tu vois ce que ça donne s'attaquer à ces paradis fiscaux. D'ailleurs, reprends les affaires Clearstream 1 et 2 avec Denis Robert, le journaliste, tu seras pas déçu. Hein.
Tu exagères.
Non, non, tu me crois pas, tu veux des exemples de banques assureurs. Tu peux toi-même fouiller le site stopparadisfiscaux.fr, BNP Paribas, Cardiff, qui travaille avec la fausse, puisque c'est une assurance, la fausse mutuelle Mieux-être, à près d'un quart de ses filiales, à 170 au total, dans des paradis fiscaux. Elle est très impliquée dans le nucléaire, le gaz de schiste, l'huile de palme, le non-respect des lois sur les assurances-vie, l'entente illicite sur les frais de chèque, la falsification de documents commerciaux, la collusion. La Société Générale, elle, n'a que 139 filiales dans des paradis fiscaux et judiciaires. Sa filiale SGI Insurance, la Société Générale Insurance, veut travailler avec Hener, le premier courtier français en santé collective. Courtier en santé collective, rien que le nom, ça fait juste flipper. Le Crédit Agricole, dont la branche assurance fonctionne avec GFP, n'a que 133 filiales dans les paradis fiscaux. Le Crédit Mutuel, dont la branche Arkéa, Survenir Assurance, je suis sûr que certains connaissent, va bosser avec Audience, qui a seulement 44 filiales paradisiaques. Ajoute à ces quatre le groupe BPCE, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, et tu auras le montant que le rapport de l'ONG britannique Oxfam dénonce depuis 2017. Là, les cinq plus grandes banques françaises ont déclaré 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans des paradis fiscaux.
Question à la con. Il déclare des bénéfices dans les paradis fiscaux. Je croyais justement qu'être dans un paradis fiscal permettait de rien déclarer.
Ah, idée reçue. D'abord, il y a des paradis fiscaux pour les sociétés, par exemple le Delaware, et puis des paradis fiscaux pour les personnes, par exemple Monaco. Okay. C'est d'ailleurs le monégasque Charles III qui a inventé le taux zéro à la fin des années 1860, en supprimant les impôts personnels, fonciers et mobiliers pour faire venir les riches dans le casino de Monte Carlo. C'est ça la stratégie de nos jours. Il n'existe pas, je crois, de pays qui te permettent de ne rien déclarer. Même l'État du Delaware, aux États-Unis, super délinquant, demande un forfait minime genre 400 $. Quoi. Son homologue européen, Andorre, a un taux à un seul chiffre.
En France, c'est combien ?
Ben, en moyenne, c'est 33,3%. Au passage, les paradis fiscaux servent aux banques à délocaliser des bénéfices pour réduire la contribution fiscale. Bravo ! Contourner leurs obligations réglementaires en matière sociale, on applaudit encore. Et elles permettent aussi de faciliter l'évasion fiscale de leurs clients. Ouais, youpi ! Et donc, de permettre entre autres aux gens qui en ont les moyens d'exonérer leurs revenus des cotisations sociales. Tchika, tchika, tchika. Alors, tu vois, tu te souviens ? Celle qui manque dans la balance recettes-dépenses de la Sécu, qui crée un trou, qui justifie qu'on mette à la place des systèmes complémentaires qui... Bon, enfin, t'as compris, quoi. Tout ça, ça s'auto-alimente. C'est dingue. Et comble du cynisme, le trou qu'on doit aux piques assiettes du repas partagé crée de la dette, qu'on comble avec des fonds demandés à des spéculateurs. En définitive, nous remboursons avec intérêt nos dettes sociales à des spéculateurs dont les établissements sont souvent ceux qui, en évitant de payer leurs impôts, ont créé notre dette. À la fin, les seuls qui payent sont les pauvres et les imbéciles, et puis les militants comme moi. Et comble du processus, on nous fait comprendre que si le trou de la sécu y a, c'est de notre faute, car on se soigne trop. Ou pour de misérables bobos de rien du tout, on ne travaille pas assez, pas assez longtemps, et nos pensions de retraite sont trop élevées. En fait, les vrais fossoyeurs ne sont pas les malades ou les retraités, hein, mais bien ceux qui spéculent sur le système, comme les célèbres fonds de pension.
Attends, pension de retraite, fonds de pension, me dis pas qu'il y a un lien.
Mais bien sûr que si, bien sûr Arthur, cramponne-toi. Il est temps de mettre un visage sur les fameux spéculateurs aussi connus sous le nom de fonds de pension américains. Allez, ferme les yeux, tu imagines déjà un Golden Boy, sans foi ni loi, costume 3 pièces, montre de luxe, le nez plein de coke, et non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Il s'agit plus sûrement d'une mamie retraitée du style Emma Webster, tu vois.
Non, c'est qui?
C'est la mémé dans Titi Gros Minet.
Ah, ok.
Le cliché mémé tarte aux pommes, tu vois. Chez elle, le système de retraite Et par capitalisation, donc elle place ses économies quelque part pour que ça lui rapporte des intérêts et finance sa retraite. L'organisme qui récupère ses fonds, c'est le fonds de pension ou fonds de retraite. Et le pire là-dedans, c'est que les retraités en question ne sont pas du tout conscients de ce qu'on fait à leur nom. On l'a très bien vu dans une émission de Cash Investigation en 2015, quand les actionnaires s'en prennent à nos emplois. Des enseignantes de l'Ontario au Canada découvrent en direct que c'est leur fonds de pension qui est en grande partie responsable de la rationalisation de l'entreprise Samsonite. Quand je dis rationalisation, il faut entendre le fait d'avoir licencié les travailleurs et fermé boutique, hein, de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. En l'apprenant, elles sont foudroyées sur place.
C'est donc à leur insu que ces braves gens sont responsables, entre mille guillemets, de drames sociaux ?
Ben oui, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, pas moi, parce que j'en ai pas, mais qui possédons beaucoup d'entre nous qui possédons des actions. Nous ne nous demandons pas comment les dividendes sont obtenus. Généralement, ces dividendes, je te l'ai dit, sont les larmes et du sang, hein, des travailleurs de ces entreprises. Bon, reprenons. Je disais que tous les organismes dont nous venons de parler sont des spécialistes dans le calcul du risque. Le montant de la cotisation qu'ils t'imposent est fixé pour que, multiplié par le nombre de cotisants, cela couvre largement les dépenses qu'ils engagent et leur salaire mirobolant. C'est à cause de ce calcul de risque que ta cotisation varie. Elle dépend non seulement du niveau de protection que tu souhaites, autrement dit qu'ils te payent plus ou moins de garniture sur ta pizza, mais aussi d'autres facteurs comme tes revenus, ton âge, ton lieu d'habitation, etc. Et c'est là que ça devient très moche. Tu me dis que c'est pas cher ? Ok, maintenant que tu as bon œil, bon pied, et que tu fais tes lessives chez papa, maman, ça va. Tu fais encore tes lessives. Bon, mais c'est vrai que tu es un peu un vieux étudiant. Mais on en reparle dans 30 ans, quand tu seras myope comme une taupe, bossu comme Quasimodo, et ton salaire suffira juste à payer le loyer d'un appartement où tu seras jamais, parce que tu travailleras trop.
Il faut comprendre, ce sont des entreprises. Il faut bien qu'elles vivent aussi.
Attends, je t'arrête direct. Premièrement, on parle d'entreprises hyper hiérarchisées qui ne répartissent clairement pas les bénéfices de manière équitable. Le plus gros du bénéfice allant à l'actionnaire qui ne travaille pas dans l'entreprise. Alors qu'il y a des entreprises qui ont des organisations horizontales. Par exemple, les SCOP, j'en ai déjà parlé au chapitre 1, je crois. Les sociétés coopératives de production. Il y a aussi les patrons de petites entreprises qui payent plus leurs employés qu'eux-mêmes. Deuxièmement, si les entreprises dont l'objet est moral, celles dont on parle sont des structures qui se nourrissent de l'anxiété des gens et qui vont casser les acquis de la Sécu pour gratter un maximum de bénéfices. Rends-toi compte, si tu viens de souscrire un contrat auprès d'une assurance privée, elle te demandera un bilan de santé. Les véritables mutuelles, elles n'en exigent pas, elles. Je ne sais même plus où j'en suis. Tiens,
faut-il encore gager que ce n'est pas respect des principes fondateurs.
pas parce que
la loi leur
le rend. Mais oui, si tu as le malheur d'avoir été malade, genre cancer, tuberculose ou sida, ta cotisation sera bien plus élevée. Ça veut dire qu'en cas de pépin, seuls les plus riches s'en sortiront. Les malades qui ne peuvent pas payer un contrat au tarif élevé pourront crever la bouche ouverte avec des mouches dedans. Pendant ce temps-là, les propriétaires et actionnaires des banques assurances se font construire des piscines. Alors tu vois, j'ai la sensation que ces structures sont des vautours de la santé. Au fond, on devrait s'offusquer que la santé soit devenue une marchandise et qu'il y ait des gens pour spéculer dessus.
Oui, ça paraît clair pour les compagnies d'assurance privées. Mais les mutuelles, c'est vraiment mieux ?
Ben, en théorie, en pratique, c'est juste moins pire. Les chiffres officiels de 2010 annonçaient que sur 33 milliards d'euros collectés, 25 avaient été redistribués et 8 étaient partis en frais de gestion. 8 milliards étaient partis. Si tu veux comparer, la Sécu, c'est environ 3% de frais de gestion contre presque un quart pour les assurances santé. Ça relativise sacrément la pseudo-efficacité du privé comparé au public, non ? Une loi votée en 2011 oblige les complémentaires santé, elle oblige, et les mutuelles incluses, à fournir leurs comptes pour fin 2012. Elles ont pu obtenir un délai d'un an et toujours rien en 2017. Les comptes des assurances complémentaires, y compris les vraies mutuelles, restent toujours aussi opaques.
Attends, presque un quart de ce que je leur donne disparaît.
Enfin, ça ne doit pas disparaître pour tout le monde, mais au fond, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas accès aux comptes. Ou plutôt si, on peut y avoir accès, mais il faut s'accrocher. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'un rapport annuel était édité par le gouvernement sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé. Bizarrement, ce rapport est très très peu relié. En consultant le dernier disponible, celui de 2015, on apprend que ces organismes ont collecté 35 milliards d'euros de cotises et payé 27 milliards de sinistres aux assurés. Autrement dit, on a toujours nos 8 milliards qui se baladent. Rappelons ce que je t'ai dit tout à l'heure, le déficit du régime de la Sécu, le fameux trou, c'était que 3 milliards et 4. Et estimé à moins d'un milliard en 2017. Ah, si seulement les 8 milliards égarés étaient tombés dans le trou. Bon, bref, résumons. Tu flippes sur ta santé parce que tu as compris que la Sécu, c'est bien, mais qu'elle ne fait pas tout, donc on te fait t'assurer. Mais dans ce prix, tu nourris des corbeaux en col blanc et tu affaiblis d'autant la Sécu qui aurait finalement permis que tu t'inquiètes moins.
Dès lors, quand on dit « c'est ma mutuelle qui paie », c'est un peu la triple arnaque. D'une, je l'ai payé avec mes propres sous. De deux, ce n'est pas une mutuelle, mais souvent une assurance classique à but lucratif. Et de trois, Je paie plus cher que ce dont j'ai besoin, mmh. et ça engraisse des gens lointains et déjà fortunés.
Mmh. Exactement. Tu commences à entrevoir pourquoi il y a progressivement des déremboursements de la sécurité sociale et une augmentation du ticket modérateur, tu sais, le prix de la garniture sur ta pizza. Ça permet en douce de passer d'un système non lucratif dans lequel on collectivise les risques à un système à but lucratif très individualisé, très dépendant de la fortune personnelle et très dépendant de ton état de santé. C'est la même logique qui conduit au développement des médecines alternatives. Bon, on en reparlera plus tard.
C'est aussi la même histoire avec les retraites, pour lesquelles on nous persuade progressivement que le modèle par répartition dont tu m'as parlé est mort et qu'il faut passer à un modèle par capitalisation. Par capitalisation.
C'est dur à dire.
Mais pourquoi les gens ne se rebiffent pas contre ça ?
Parce que c'est lent, parce que c'est insidieux.
C'est la technique de la grenouille dans la casserole d'eau. Mmh. Si tu la mets dans de l'eau froide et que tu fais chauffer progressivement, le liquide, évidemment, pas la grenouille, elle ne s'effarçoit pas qu'elle cuit.
En fait, tu sais que ça, c'est une légende urbaine quand même, mais c'est le principe, tu veux.
Quoi, tu veux dire que c'est pas vrai ?
Ben non, en réalité, une grenouille, elle ne se laisse pas ébouillanter, tu la fous dans une casserole. Non, non. Je connais un mec qui s'appelle Victor H. Hutchinson, un zoologue de l'Oklahoma. Il l'a vérifié en 2002 et c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on comprend la métaphore. Un petit coup de déremboursement par-ci, un petit forfait par-là, hop, on détricote la couverture sociale, comme on détricoterait un chandail. Alors, si t'as compris le coup de la pizza, il faut juste te dire qu'en fonction de tes besoins de soins, les proportions de pâtes, de garniture et le prix de la livraison seront différentes. Tiens, je te donne un exemple avec le régime général, le mien. Les taux de remboursement dépendent, certes, du régime d'affiliation, mais la tendance est à l'alignement des régimes sur le régime général. Quand tu vas voir ton médecin traitant pour une consultation, tu payes 25 euros à la fin.
C'est 23 euros, je crois.
Alors 2016. Non, ça a changé depuis le 1er mai 2017, c'est bien 25 euros. La Sécu sociale considère que c'est une pizza livrée avec 70% de mélange livraison et pâte et 30% de garniture. Tu te souviens, le ticket modérateur. Le pourcentage de 70% est ce qu'on appelle le taux de remboursement. Donc, sur 25 euros, il y a 17,50 euros, les 70% de 25 euros, de pizza qui te seront remboursés. Moins 1 euro de forfait pour la livraison, qui est de ta poche, souviens-toi. Donc la Sécu te remboursera 16,50 euros, le prix de la pâte. Et si tu as souscrit une complémentaire, elle te règle les 7,50, 25 moins 17,50, mmh. correspondant à la garniture. Sinon, c'est pour ta poche.
Ça, c'est si je consulte un généraliste. Si c'est un spécialiste, ça marche comment ?
Eh bien ça, tu vas le savoir dans le chapitre 5.